Aristote, Morale à Nicomaque, livre 4, chapitre 3. Sommaire. De la magnanimité. Définition, les deux vices opposés. La petitesse d'âme et la vanité présomptueuse. Le magnanime n'a jamais que l'honneur en vue. Il est le plus vertueux des hommes. Modération du magnanime dans toutes les fortunes. Les avantages d'une grande position développent la magnanimité. Hauteur et fierté du magnanime. Son courage, son désintéressement, son indépendance, sa lenteur et son indolence, sa franchise, sa gravité silencieuse, ses manières personnelles. L'homme sans grandeur d'âme, le sot vaniteux. Paragraphe 1. La magnanimité, ou grandeur d'âme, comme son nom seul suffit à l'indiquer, ne s'applique qu'aux grandes choses. Mais sachons d'abord à quelles choses elle s'applique. D'ailleurs, nous pouvons indifféremment étudier ou la qualité elle-même ou l'individu qui la possède. Paragraphe 2. Le magnanime semble être l'homme qui se sent digne des choses les plus grandes et qu'il est en effet, car celui qui a de lui-même cette haute estime sans le mériter est un insensé. Et il n'y a point de cœur, selon la vertu, qui soit insensé ni déraisonnable. Le magnanime est donc ce qu'on vient de dire. Mais celui qui n'a que peu de valeur personnelle et qui le reconnaît lui-même, en ne demandant que des choses à sa portée, peut bien être un homme sage et modeste, ce n'est jamais un cœur magnanime. La magnanimité suppose toujours le grand, comme la beauté qui ne se rencontre jamais que dans un grand corps. Car les petits hommes peuvent être élégants et bien faits, ils ne sont point beaux. Paragraphe 3. Celui qui a de lui-même la plus haute idée et qui ne le mérite pas est un homme vain, bien qu'il n'y ait pas toujours vanité à s'estimer soi-même plus qu'on ne vaut. Paragraphe 4. Celui qui s'estime moins qu'il ne vaut est une petite âme, soit qu'en effet, ayant un grand mérite ou un mérite médiocre, et même, si l'on veut simplement, n'ayant qu'un très mince mérite, il le place encore au-dessous de sa valeur réelle. Mais c'est surtout, si l'on vient à se méconnaître, quand on est plein de mérite, que se montre la petitesse d'âme. Car que ferait-on autrement si, de fait, l'on n'était pas capable des choses les plus importantes? Paragraphe 6. Le magnanime est dans l'extrême par sa grandeur même. Mais il est dans le juste milieu, parce qu'il est comme il doit être. Il s'estime à sa juste valeur, tandis que les autres, au contraire, pêchent soit par excès, soit par défaut. Paragraphe 6. Si donc on se sent un grand mérite qui est réel, et surtout si l'on se sent le plus grand mérite, on ne doit avoir qu'une seule chose en vue. Et la voici. La juste récompense du mérite devant s'entendre les biens extérieurs. Le plus grand de tous ces biens doit être à nos yeux celui que nous attribuons au Dieu même, celui que, par-dessus tous les autres, ambitionnent les gens revêtus des plus hautes dignités, celui qui est la récompense des actions les plus éclatantes. Et ce bien-là, c'est l'honneur. L'honneur sans contredit est le plus grand de tous les biens extérieurs à l'homme. Ainsi, le magnanime sera exclusivement occupé dans sa conduite de ce qui peut procurer l'honneur ou causer le déshonneur. Sans que, d'ailleurs, cette préoccupation ne sorte jamais des justes limites. Paragraphe 7. Et certes, ce n'est pas sans raison que les cœurs magnanimes semble surtout considérer l'honneur, puisque les grands ambitionnent surtout l'honneur qu'ils regardent comme leur plus digne récompense. Paragraphe 8. La petitesse d'âme pêche par défaut et elle laisse celui qui l'éprouve au-dessous de lui-même et de ce noble sentiment qu'éprouve le magnanime. Paragraphe 9. Quant à l'homme vaniteux, il pêche par excès dans l'opinion exagérée qu'il a de son propre mérite. Mais à cet égard, il ne dépasse point le magnanime. Paragraphe 10. Puisque le magnanime est digne des plus gros honneurs, il faut aussi qu'il soit le plus parfait des hommes. Quand on n'a plus de mérite, on a droit à la plus belle part, et le meilleur des hommes a droit à la part la meilleure. Ainsi, il faut nécessairement que l'homme vraiment magnanime soit plein de vertus, et tout ce qu'il y a de grand dans les vertus de chaque genre semble devoir être son partage. Paragraphe 11. Il ne conviendra jamais au magnanime de trembler ou de fuir, pas plus qu'il ne s'abaissera jamais à faire le mal. Mais commettrait-il des actions honteuses, lui aux yeux de qui rien n'est grand? Si l'on y regarde de près, on verra que pour tous les cas, il n'y aurait qu'un profond ridicule dans la magnanimité si elle n'était pas accompagnée de la vertu. On ne serait pas non plus digne d'honneur si l'on était vicieux, car l'honneur est le prix de la vertu, et il n'est dû qu'au cœur vertueux. Paragraphe 12. Ainsi, la magnanimité peut sembler comme la parure de toutes les autres vertus. Elle les accroît et ne peut jamais exister sans elles. Et ce qui fait qu'il est si difficile d'être en toute sincérité magnanime, c'est qu'on ne peut l'être sans une vertu complète. Paragraphe 13. Mais je le répète, quoique le magnanime se préoccupe surtout de ce qui peut attirer l'honneur et la honte, il ne jouira que très modérément des honneurs les plus grands, et de ceux même que décernent les gens de bien. Il les regardera comme une propriété qui lui appartient, ou bien même il les trouvera parfois au-dessous de lui, car il n'y a pas d'honneur suffisant pour récompenser jamais une parfaite vertu. Cependant, il les acceptera puisque, après tout, les gens du bien ne sauraient lui décerner rien de plus grand. Mais le magnanime dédaignera profondément l'honneur qui vient du vulgaire et qui s'attache aux petites choses, car ce n'est pas ce dont il est digne. Il aura le même dédain pour les insultes, puisque jamais elles ne sauraient être justes envers lui. Paragraphe 14. Mais si le magnanime, comme je l'ai dit, regarde surtout à l'honneur, il n'en saura pas moins se modérer en tout ce qui concerne la richesse, la puissance. En un mot, la fortune et l'adversité, sous quelque forme qu'elles se présentent. Dans le succès, il n'aura point une joie excessive, ni dans les revers, un excès d'abaissement. Il n'a pas même ses sentiments emportés à l'égard de l'honneur, qui est cependant à ses yeux la plus importante de toutes les choses, puisque la puissance avec ses ressources infinies et la richesse ne semblent à désirer qu'en vue de l'honneur qu'elles peuvent procurer, et que ceux qui possèdent ces avantages veulent surtout en tirer de l'honneur. Mais la grande âme, pour qui les honneurs sont peu de choses, s'inquiète encore moins de tout le reste. Et voilà comment les magnanimes paraissent bien souvent dédaigneux et altiers. Paragraphe 15. Toutefois, on peut dire que les avantages d'une situation grande et prospère contribuent aussi à développer la magnanimité. Une naissance illustre, le pouvoir, l'opulence sont entourés d'honneur et de considération, car ces conditions sont rares et supérieur dans la vie. Et tout ce qui, dans le bien, offre une supériorité, semble plus spécialement digne d'honneur. Voilà pourquoi des avantages de ce genre rendent parfois les hommes plus magnanimes, parce qu'ils sont déjà honorés par ceux qui les entourent. Paragraphe 16. Mais à vrai dire, l'homme de bien est seul digne d'honneur et d'estime. Sans doute, quand on réunit les deux, la vertu et la fortune, on obtient plus sûrement la considération. Mais ceux qui possèdent ces biens étrangers, sans posséder la vertu, ne peuvent justement s'estimer très haut eux-mêmes. Et l'on aurait tort de les croire magnanimes, car il n'y a point d'honneur et de magnanimité sans une vertu parfaite. Paragraphe 17. Les méchants, quand ils ont tous les biens de ce genre, deviennent orgueilleux et insolents, car sans la vertu, il n'est pas facile de soutenir la prospérité avec la modération convenable. Incapables de la supporter sagement, et se croyant fort supérieurs aux autres, on les méprise et l'on se permet tous les caprices que le hasard inspire. On parodie le magnanime sans avoir la moindre ressemblance. On l'imite dans ce qu'on peut. Et comme on ne se conduit pas selon la vertu, on en arrive à dédaigner follement et sans raison la conduite d'autrui. Paragraphe 18. Mais le dédain que ressent le magnanime est toujours justifié, parce qu'il juge la vérité des choses, tandis que le vulgaire ne juge jamais qu'au hasard. Paragraphe 19. Le magnanime n'aime pas à braver les petits périls. Il ne recherche pas non plus les périls ordinaires, parce qu'il est bien peu de choses que son âme estime. Mais il affronte les vrais et grands dangers, et dans ces occasions, il fait sans hésiter le sacrifice de sa vie, parce que la vie ne lui paraît pas valoir qu'on la conserve à tout prix. Paragraphe 20. Tout en étant capable de faire du bien aux autres, il rougit du bien qu'ils lui font, car il y a supériorité dans le premier cas et infériorité dans l'autre. Par suite, il rend toujours plus qu'il n'a reçu, car de cette façon, celui qui lui avait rendu service lui devra quelque chose à son tour et deviendra son obligé. Paragraphe 21. Aussi, les magnanimes se rappellent plutôt les gens qu'ils ont obligés que ceux qui les ont obligés eux-mêmes, parce que l'obligé est toujours un peu au-dessous du bienfaiteur et que le magnanime, recherchant tout la supériorité, il se plaît au souvenir des uns et souffre avec quelque peine le souvenir des autres. Voilà pourquoi Thétis se garde bien de rappeler en détail à Jupiter les services qu'elle lui a rendus, de même que les Lacédémoniens, en recourant aux Athéniens, ne leur parlèrent que des services qu'ils en avaient reçus déjà plusieurs fois. Paragraphe 22. Il est encore dans le caractère du magnanime de ne recourir à personne, ou du moins de n'y recourir qu'avec peine, d'obliger au contraire de tout cœur, de se montrer grand et fier envers ceux qui sont dans les honneurs ou dans la prospérité, et plein d'une bienveillante modération avec les gens de condition moyenne. C'est qu'il est difficile et noble tout à la fois de surpasser les uns, tandis qu'il est trop facile de dominer les autres. La hauteur même et l'orgueil à l'égard des grands ne messied pas à un homme bien né, tandis qu'envers les petites gens, c'est une sorte de mauvais goût, comme d'abuser de sa force contre les faibles. Paragraphe 23. Le magnanime ne va pas dans les lieux où s'honore d'aller le vulgaire, ni dans ceux où d'autres que lui tiennent le premier rang. Il aime assez l'indolence et la lenteur, si ce n'est dans les occasions où il y a un grand honneur à conquérir ou quelque rare entreprise à tenter. Il ne fait que très peu de choses, mais toujours des choses grandes et dignes de renom. Paragraphe 24. C'est aussi une nécessité de son caractère de montrer ouvertement ses haines et ses amitiés. Il n'y a que celui qui a peur qui se cache. Et quant à lui, comme il s'inquiète plus de la vérité que de l'opinion, il parle et il agit franchement à la face de tout le monde, comme c'est le propre d'une âme fière et dédaigneuse. Aussi est-il parfaitement sincère, et sa franchise se montre par les dédains qu'il exprime souvent. Passionné pour la vérité, il la dit toujours, si ce n'est quand il emploie l'ironie, moyen dont il se sert assez souvent avec le vulgaire. Paragraphe 25. Il ne peut vivre non plus qu'avec un ami. Vivre avec un autre, c'est une sorte de servitude. Et voilà pourquoi tous les flatteurs ont des caractères serviles, et que les petits, en général, sont des flatteurs. Paragraphe 26. Le magnanime est encore très peu porté à l'admiration, car il n'y a rien de grand à ses yeux. Il n'a pas davantage de ressentiment du mal qu'on lui a fait, car ce souvenir du passé n'est pas d'une grande âme, surtout ce souvenir du mal, et il est plus digne de lui de l'oublier. Paragraphe 27. Il n'aime pas non plus à parler avec les gens parce qu'il n'a rien à dire de lui-même ni d'autrui. Il s'inquiète tout aussi peu d'être loué que de blâmer les autres. Comme il ne prodigue pas l'éloge, il ne se plaît pas non plus à dire du mal, même de ses ennemis, si ce n'est parfois pour les insulter. Paragraphe 28. Ce n'est pas lui qu'on n'entendra jamais se plaindre ni descendre à la prière pour des choses qui lui font besoin ou pour de petites choses. S'occuper de ses misères et d'un homme qui y attache un grand intérêt. Loin de là, il est homme à rechercher les choses belles et sans fruits plutôt que les choses utiles et fructueuses. Car ce goût sied mieux à un cœur indépendant qui se suffit à lui-même. Paragraphe 29. Les allures personnelles du magnanime ont quelque chose de lent. Sa voix est grave, sa parole posée. On n'a point d'empressement quand on ne met d'intérêt qu'à un petit nombre de choses. Et l'âme, qui ne trouve rien de grand en ce monde, montre assez peu d'ardeur pour quoi que ce soit. La vivacité du langage et la hâte des actions témoignent en général de sentiments d'un certain ordre que le cœur du magnanime ne ressent point. Tel est donc le magnanime. Paragraphe 30. Celui qui pêche par défaut à cet égard est une âme sans grandeur, une petite âme, et celui qui pêche au contraire par excès est le vaniteux. On ne peut pas dire précisément que ce soit là des hommes vicieux, car ils ne font pas de mal. Ce sont plutôt des hommes qui se trompent. Ainsi, l'homme qui a l'âme sans grandeur, quoiqu'il mérite certaines considérations, se prive lui-même des choses dont il serait digne. Son défaut semble consister à ne pas se croire digne des avantages qui lui sont dus et à se méconnaître lui-même. Car autrement, il désirerait les choses qui lui doivent revenir, puisqu'il en est digne et que ce sont des biens réels. Du reste, les gens de ce caractère ne sont pas pour cela dénués de sens. Ce sont plutôt des gens indolents. Et cette opinion fausse qu'ils ont de leur propre mérite paraît les rendre encore moins bons qu'ils ne le sont. On désire toujours ce dont on se croit digne. Mais eux, ils s'abstiennent de généreux efforts et de belles actions, parce qu'il ne se croit pas digne de les tenter. Et par suite, il se croit indigne des biens extérieurs qui en sont la récompense. Paragraphe 31. Les vaniteux, de leur côté, montrent bien à découvert comme ils sont sots et comme ils se méconnaissent eux-mêmes. Ils prétendent aux choses les plus hautes comme s'ils en étaient dignes, et leur incapacité ne tarde pas à les démasquer. Ils s'occupent avec la plus grande recherche de leurs vêtements, de leur tournure et de tous ces frivoles avantages. Ils veulent faire éclater aux yeux de tout le monde leur prospérité. Et ils en parlent comme s'ils devaient en tirer beaucoup d'honneur. Paragraphe 32. Du reste, la petitesse d'âme est plus opposée que la sottise vaniteuse à la magnanimité. Et elle est à la fois plus fréquente et plus blâmable. En résumé, la magnanimité ne recherche que l'honneur en grand, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Chapitre 4. Sommaire. Le juste milieu entre une ambition excessive et une complète indifférence pour la gloire n'a pas reçu de nom spécial. Il est à la magnanimité ce que la libéralité est à la magnificence. Sens équivoque du mot ambitieux, pris tantôt en bonne part et tantôt en mauvaise part. Le juste milieu est sans nom pour beaucoup de vertus. Paragraphe 1. Il semble qu'il doit y avoir, comme on l'a dit dans ce qui précède, quelques vertus qui, sous le rapport de l'honneur, se rapprochent beaucoup de la magnanimité, et qui soit pour elle ce que la libéralité est à la magnificence. Toutes les deux, c'est-à-dire la libéralité et cette vertu anonyme, s'éloignent du grand, mais elles nous assurent la disposition morale qu'il convient d'avoir à l'égard des choses médiocres et des petites choses. Paragraphe 2. Ainsi, de même que pour donner et recevoir les richesses, il y a un sage milieu entre deux vices, l'un par excès et l'autre par défaut. De même, on peut distinguer dans le désir de l'honneur et de la gloire deux nuances, l'une en plus, l'autre en moins. Et aussi un milieu où l'on ne recherche l'honneur que dans les occasions et de la manière qu'il faut le rechercher. Paragraphe 3. Si l'on blâme l'ambitieux, c'est qu'il poursuit les honneurs avec plus d'ardeur qu'il ne convient, et qu'il les demande à des choses où il ne faudrait pas les chercher. On ne blâme pas moins celui qui, trop peu soucieux de l'estime publique, ne tente point de l'acquérir même par de belles actions. Paragraphe 4. Parfois, au contraire, on applaudit à l'ambitieux qu'on regarde comme un cœur viril et noble, ainsi qu'on applaudit encore à l'homme sans ambition, qu'on appelle cœur sage et modéré, comme nous l'avons dit plus haut. Mais il est évident qu'un terme qui exprime le penchant pour telle ou telle chose, pouvant être pris en plusieurs sens, nous n'appliquons pas toujours ici le nom d'ambitieux de la même manière. Ainsi, nous louons quand l'ambitieux a plus d'ambition que le commun des hommes. Et tout à la fois nous blâmons quand l'homme ambitieux l'est plus qu'il ne faut. Le milieu, n'ayant pas de nom spécial et restant vide en quelque sorte, les extrêmes paraissent se le disputer, bien que cependant, partout où il y a excès et défaut, il y ait nécessairement aussi un milieu. Paragraphe 5. On peut donc ambitionner l'honneur plus et moins qu'il ne faut. On peut aussi l'ambitionner comme il convient. Et cette disposition sans nom particulier, qui est le juste milieu en fait d'ambition, est la seule digne de notre louange. Si l'on compare ce milieu à l'ambition proprement dite, il paraît une indifférence absolue pour la gloire. Et si on le compare à cette absolue indifférence, il semble au contraire une ambition véritable. Rapporté à chacun des extrêmes, il est, en quelque sorte, l'un et l'autre tour à tour. Paragraphe 6. Du reste, cette alternative paraît se retrouver pour toutes les autres vertus. Et si les extrêmes semblent ici plus complètement opposés, c'est que le milieu qui les sépare n'a pas reçu de nom spécial. Chapitre 5. Sommaire. De la douceur. Milieu entre l'irascibilité et l'indifférence. Description de la douceur et des deux extrêmes contraires. Du caractère irascible. Les gens irascibles s'emportent vite et se calment d'eux-mêmes. Les gens atrabilaires, tout au contraire. Difficulté de fixer précisément les limites dans lesquelles doit se renfermer la colère. Paragraphe 1. La douceur est un milieu en ce qui concerne tous les sentiments emportés. Mais à vrai dire, ce milieu n'ayant pas de nom bien précis, les extrêmes n'en ont pas davantage. Et nous prenons la douceur pour un milieu, tandis qu'elle penche vers le défaut, qui n'a pas non plus de nom particulier. Paragraphe 2. L'excès en ce genre pourrait s'appeler irascibilité. La passion qu'on éprouve en ce cas est la colère, et les motifs qui la produisent sont aussi nombreux que différents. Paragraphe 3. Celui donc qui se laisse aller à la colère dans des occasions ou contre des gens qui la méritent, et qui de plus s'y laisse aller de la manière, dans le moment et durant tout le temps qu'il convient, celui-là doit recevoir notre approbation. C'est là, qu'on le sache bien, la vraie douceur, si la douceur est digne d'éloge. L'homme réellement doux sait ne point se troubler et ne pas se laisser emporter par la passion. Mais il s'irrite dans les occasions où la raison veut qu'on s'irrite, et tout le temps qu'elle l'ordonne. Paragraphe 4. S'il semble que la douceur pêche plutôt par défaut que par excès, c'est qu'un caractère doux ne cherche pas à se venger et qu'il incline bien davantage au pardon. Paragraphe 5. Mais le défaut en ce genre, soit qu'on l'appelle une impuissance à se mettre en colère, soit qu'on le qualifie de tout autre nom, est toujours digne de blâme. On ne peut que traiter de stupides ceux qui restent sans colère, pour les choses où il faudrait éprouver une colère réelle, ainsi que ceux qui en ressentent d'une manière, dans un temps, ou pour des choses où l'on ne devrait pas en avoir. Paragraphe 6. Celui qui, alors, ne s'emporte pas, paraît ne rien sentir et ne pas savoir s'indigner justement. On peut même croire qu'il ne saurait pas se défendre dans l'occasion, puisqu'il ne sait pas ressentir de courage. Mais c'est une lâcheté digne d'un esclave de supporter une insulte et de laisser attaquer ses proches impunément. Paragraphe 7. L'excès, en ce genre, peut aussi revêtir toutes ses nuances. On peut s'emporter ou contre des gens qui ne le méritent pas, ou pour des motifs qui n'en valent pas la peine, ou plus vivement qu'il ne faut, ou plus vite, ou plus longtemps qu'il ne convient. Il va d'ailleurs sans dire que toutes ces circonstances ne se réunissent pas dans un même individu. Car la chose ne se pourrait pas, le mal se détruit lui-même. Et quand il est aussi complet qu'il peut l'être, il devient tout à fait intolérable. Paragraphe 8. les gens d'un caractère irascible s'emportent vite. Ils s'emportent contre des personnes et dans des occasions qui ne le méritent point. Ils s'emportent plus qu'il ne faut. Il est vrai qu'ils s'apaisent très vite aussi, et c'est ce qu'ils font de mieux. S'ils tombent dans ces fautes, c'est qu'ils ne savent pas maîtriser leur colère. Ils réagissent sur le champ en montrant leur passion, à cause même de l'extrême ardeur du sentiment qui les transporte. Mais ensuite, ils se calment avec non moins de promptitude. Ainsi, les gens colériques sont d'une vivacité excessive. Ils s'irritent à propos de tout et contre tout le monde, ce qui leur a fait donner leur nom. Paragraphe 9. Mais les gens atrabilaires sont plus difficiles à ramener, et leur emportement dure longtemps, parce qu'ils savent maîtriser les sentiments de leur cœur et ne s'apaisent qu'après avoir rendu le mal qu'on leur a fait. C'est la vengeance qui calme leur colère, parce qu'elle remplace par le plaisir la peine qui les dévorait. Mais, tant que leur ressentiment n'est pas satisfait, ils ont un poids qui les oppresse, et comme ils se gardent de rien manifester, personne ne peut entreprendre de les guérir par la persuasion. Il faut du temps pour ronger en soi-même sa colère, et ces gens-là sont les plus insupportables des hommes, et pour eux-mêmes, et pour leurs amis les plus tendres. Paragraphe 10. On appelle en général gens difficiles à vivre ceux qui s'emportent dans les occasions où il ne faut pas s'emporter, qui s'emportent plus vivement et plus longtemps qu'il ne faut, et qui ne reviennent jamais avant d'avoir obtenu vengeance et puni l'offenseur. Paragraphe 11. C'est l'excès en ce genre que nous regardons plus particulièrement comme l'opposé de la douceur, car cet excès est plus ordinaire. Se venger outre mesure est plus conforme à la nature humaine. Et les gens, si difficiles à vivre, nous en paraissent d'autant plus vicieux. Paragraphe 11. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit antérieurement et ce que confirme clairement les détails où l'on vient d'entrer. Ce n'est pas facile que de déterminer précisément comment, contre qui, pour quel motif et combien de temps il convient de se mettre en colère, et quel est le point exact jusqu'où l'on fait bien d'aller, et celui où commence la faute. Tant qu'on ne dépasse que de très peu la limite, soit en plus, soit en moins, on n'encourt pas de blâme, puisque parfois nous approuvons ceux qui restent en deçà en les louant de leur douceur, et que nous ne louons pas moins ceux qui s'emportent au-delà, pour leur mâle courage, les trouvant capables du commandement et de l'autorité. Mais il ne serait pas du tout aisé d'indiquer par des termes précis le point où l'on se rend blâmable par le degré ou la forme de son emportement. Le jugement ne peut ici se former qu'en présence des faits eux-mêmes et sous le sentiment qu'ils provoquent. Paragraphe 12. Ce qui, du moins, est parfaitement clair, c'est que l'on doit estimer cette qualité de juste milieu qui fait que nous nous emportons contre qui il faut, pour ce qu'il faut et dans la forme qu'il faut, en un mot, avec toutes les autres conditions voulues. Quant à l'excès et aux défauts, ils sont toujours dignes de blâme, d'un blâme modéré quand ils s'éloignent peu de la juste mesure, plus vif quand il s'en éloigne davantage, violent quand il s'en écarte beaucoup. C'est donc évidemment à la disposition moyenne qu'il faut principalement s'attacher. Paragraphe 13. Telles sont les considérations que nous voulions présenter sur les habitudes de l'âme relatives à la colère. Chapitre 6. Sommaire. De l'esprit de société. L'homme aimable et l'homme qui cherche trop à plaire. La disposition moyenne dans ce caractère se rapproche de l'amitié. L'homme qui cherche à plaire doit avoir aussi de la fermeté dans certains cas et doit savoir faire de la peine quand il le faut. Il sait encore traiter les gens suivant leur position. Défaut opposé à ce caractère. La disposition moyenne, en ce genre, n'a pas reçu de nom spécial. Paragraphe 1. Dans les relations de toutes sortes que les hommes ont entre eux pour la vie commune, soit de simples conversations, soit d'affaires, il y a des gens qui cherchent à se rendre agréables à tout le monde. Dans le désir de plaire, ils approuvent toujours tout. Ils ne contredisent sur rien, croyant que c'est un devoir de ne faire de peine à qui que ce soit parmi les personnes qu'ils rencontrent. Paragraphe 2. Il y a d'autres gens qui, d'un caractère tout contraire à cela, prennent le contre-pied en toute chose et ne s'inquiètent jamais de la peine qu'ils peuvent causer. Ce sont eux qu'on appelle gens moroses et querelleurs. Paragraphe 3. On voit, sans qu'on ait besoin de le dire, que ces deux dispositions opposées sont dignes de blâme et qu'il n'y a de louable que la disposition moyenne, qui fait qu'on accueille ou qu'on repousse, comme on le doit, les hommes et les choses qu'on doit accueillir ou repousser. Paragraphe 4. Du reste, cette sage disposition n'a pas reçu de nom particulier, mais elle ressemble beaucoup à l'amitié, car l'homme que nous trouvons dans cette disposition moyenne est tel à nos yeux que nous serions prêts à l'appeler un ami véritable s'il joignait à son obligeance un sentiment d'affection pour nous. Paragraphe 5. Mais il y a cette différence avec l'amitié que le cœur de cet homme n'éprouve point de sentiment et qu'il n'est point sérieusement attaché à ceux avec qui il se rencontre. Ce n'est ni par amour ni par haine qu'il prend les choses comme il faut. C'est simplement parce qu'il est ainsi fait. Cela est si vrai qu'il garde toujours ce même caractère, et pour les gens qu'il ne connaît pas, et pour ceux qu'il connaît, pour ceux qu'il voit d'habitude, et pour ceux qu'il voit le plus rarement. Ce qui n'empêche pas qu'il ne conserve à l'égard de chacun toutes les nuances nécessaires, car il ne convient pas de traiter du même ton ses amis et des étrangers, quand on doit leur témoigner soit de l'intérêt, soit du mécontentement. Paragraphe 6. J'ai dit, d'une manière générale, que l'homme de ce caractère sera dans la société tout ce qu'il faut être. Mais j'ajoute que c'est en rapportant tout ce qu'il fait au bien et à l'utile qu'il réussira sûrement à ne froisser personne et même à faire plaisir à tout le monde. Paragraphe 7. En effet, il semble ne songer qu'aux plaisirs et aux peines qui naissent du commerce des hommes entre eux. Mais toutes les fois qu'il ne serait pas bien à lui ou qu'il lui serait nuisible de prendre part à certains plaisirs, il les repousse. Au besoin, il préfère même faire par son refus de la peine aux autres, surtout si ce plaisir est de nature à causer un déshonneur plus ou moins grave, ou même une perte à celui qui s'y livre, tandis que la contrariété qu'on lui oppose ne doit lui donner qu'un chagrin assez léger. Il se décide à ne pas accueillir la proposition et même à la combattre, sans craindre d'affliger les gens. Paragraphe 8. Il sera d'ailleurs différent dans ses rapports avec les personnes de considération et avec les gens du commun, avec les personnes qui sont plus ou moins connues de lui. Il mettra le même soin à observer toutes les autres nuances, rendant à chacun ce qui lui appartient, cherchant toujours pour la chose même à faire plaisir à autrui et prenant bien garde à faire de la peine, mais allant aussi toujours du côté où les conséquences peuvent être les plus graves. Et j'entends par là qu'ils ne recherchent jamais que le beau et l'utile, sachant causer à l'occasion de petites peines pour préparer plus tard un grand plaisir. Paragraphe 9. Tel est donc l'homme qui a le caractère moyen que je viens d'indiquer. Mais ce caractère n'a pas reçu de nom spécial. Quant à celui qui cherche toujours à plaire, s'il ne prétend qu'à être agréable et sans avoir aucun autre motif, on l'appelle complaisant. Mais s'il agit ainsi pour qu'il lui en revienne quelque profit personnel, s'il vise par là à faire sa fortune ou à obtenir les choses que la fortune procure, c'est un flatteur. Enfin, celui qui, loin de chercher à plaire, trouve mauvais tout ce que l'on fait, c'est, comme je l'ai déjà dit, l'homme difficile et querelleur. Si les deux caractères contraires semblent ici exclusivement opposés l'un à l'autre, c'est que le milieu n'a pas reçu de nom particulier. Chapitre 7. Sommaire. De la véracité et de la franchise. Elle est un milieu entre la vaine jactance, qui suppose des qualités que l'on n'a pas, et la réserve, qui rapetisse celle même qu'on a. Caractère du véridique. Il déteste le mensonge et l'évite dans les petites choses comme dans les grandes. Le fanfaron et le charlatan, leurs motifs divers, le caractère réservé ou ironique, Socrate, l'ironie, quand elle est modérée, est aimable et gracieuse. Paragraphe 1. Le juste milieu, en ce qui concerne la sotte vanité ou jactance, s'applique aussi à peu près aux mêmes choses que nous venons d'énumérer. Ce milieu non plus n'a pas de nom. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de mal à étudier même ses vertus anonymes. Nous apprendrons mieux les choses de la morale en analysant chaque vertu en particulier, et nous nous convaincrons d'autant plus sûrement que les vertus sont des milieux en voyant que cette condition se reproduit pour toutes généralement. Nous venons de parler, en ce qui se rapporte aux relations de société, de ceux qui ne s'occupent que du plaisir et du chagrin qu'ils font aux autres. Parlons maintenant de ceux qui, dans ces rapports, sont vrais ou menteurs, soit par leur discours, soit par leurs actions, soit par le rôle qu'ils se donnent. Paragraphe 2. Le sot vaniteux, le fanfaron, est celui qui, en fait de choses propres à illustrer un homme, veut faire croire qu'il possède des qualités qu'il n'a réellement pas, ou qu'il veut faire supposer celles qu'il a plus grandes qu'elles ne sont en réalité. Paragraphe 3. L'homme réservé, au contraire, se refuse les qualités mêmes qu'il possède, ou il les rapetisse. Paragraphe 4. Celui qui tient le milieu entre ces deux extrêmes se donne pour ce qu'il est, aussi vrai dans sa vie que dans son langage. En parlant de lui-même, il s'attribue les qualités qu'il a, et il ne les fait ni plus grandes, ni plus petites qu'elles ne sont. Paragraphe 5. On peut, du reste, en agissant dans chacun de ces cas et avec ses diversités, avoir un but ou n'en avoir point. Tout homme parle, agit et se conduit dans la vie selon son caractère propre, à moins qu'il n'ait en vue quelque intérêt particulier. Paragraphe 6. Mais, comme en soi, le mensonge est blâmable et mauvais, et que la vérité, au contraire, est belle et digne de louange, il s'ensuit que l'homme véridique, qui se tient dans le sage milieu, est louable, et que ceux qui mentent, dans un sens ou dans l'autre, sont blâmables, quoique je l'avoue, le sot, vaniteux et fanfaron le soit encore davantage. Parlons de ces deux caractères, et d'abord du véridique. Paragraphe 7. On comprend bien que nous ne parlons pas de l'homme qui sait dire la vérité dans les contrats réguliers, ni dans toutes ces occasions où se trouvent impliquées des questions de justice ou d'injustice, car c'est là une vertu d'un tout autre ordre. J'entends parler uniquement de celui qui, sans avoir à traiter d'aussi graves intérêts, sait dans sa vie et dans ses discours dire la vérité parce que telle est sa disposition naturelle. Paragraphe 8. Un homme ainsi fait est réellement un homme d'honneur. Il aime la vérité et, la disant dans les cas même où elle est sans importance, il saura la dire à plus forte raison là où elle importe. Car alors, il évitera comme une infamie le mensonge qu'en soi, il aurait fui naturellement. Ce caractère-là est vraiment digne d'estime. Paragraphe 9. Si parfois il s'écarte de la stricte vérité, ce sera plutôt pour affaiblir les choses, car cette atténuation du vrai a quelque chose de plus délicat, et les exagérations sont toujours faites pour choquer. Paragraphe 10. Mais celui qui, sans aucun motif, exagère les choses à son avantage, peut passer pour vicieux, car s'il ne l'était point, il ne se plairait pas au mensonge. Toutefois, il est plutôt léger que méchant. Paragraphe 11. Mais quand on ment par un motif, si c'est par amour des honneurs ou désir de la renommée comme le vaniteux, on n'est pas très coupable. Si, au contraire, c'est directement en vue de l'argent ou par une cupidité de ce genre, on se déshonore bien plus gravement. Paragraphe 12. On n'est pas vaniteux et fanfaron par cela seul qu'on est capable de mentir, mais parce qu'en fait, on a préféré le mensonge à la vérité. On est fanfaron par habitude morale et par nature, tout comme on est menteur. Tel menteur se complaît au mensonge lui-même, et tel autre ment parce qu'il convoite de la renommée ou du profit. Paragraphe 13. Ceux donc qui, uniquement pour se faire une réputation, se montrent vaniteux et fanfarons, s'attribuent faussement des avantages qui attirent la louange des hommes ou leur jalouse admiration. Mais ceux dont la vanité vise au lucre s'attribuent des talents qui peuvent être utiles au prochain et dont la fausseté peut se dissimuler assez aisément. Par exemple, la science d'un médecin ou d'un devin habile. Aussi sont ceux-là les talents que se donnent le plus fréquemment les charlatans, car ils y sont poussés par les motifs qu'on vient de dire et qu'ils portent en eux. Paragraphe 14. Quant à ceux qui ont cette réserve ou disposition ironique de toujours diminuer les choses, ils paraissent en général des caractères plus aimables et plus gracieux. Ce n'est pas certainement la cupidité qui les fait parler comme ils font. C'est plutôt parce qu'ils veulent fuir toute exagération. Les gens de ce caractère repoussent surtout avec soin tout ce qui peut donner de la célébrité. Et l'on sait comme faisait Socrate. Paragraphe 15. Quant à ceux qui s'arrogent à tort des qualités sans importance et dont ils veulent frapper les yeux de tout le monde, ce sont ce qu'on peut appeler d'assez mauvais lourdeaux, et ils s'attirent bien vite le dédain qu'ils méritent. Parfois, la réserve poussée trop loin ressemble à de la fanfaronnade, et ce n'est pas moins s'afficher que les gens qui s'habillent à la spartiate. Car l'exagération, soit en trop, soit en moins, sont également le fanfaron et le charlatan. Paragraphe 16. Mais quand on sait employer modérément la réserve et l'ironie, et qu'on l'applique à des choses qui ne sont ni trop vulgaires, ni trop évidentes, ce badinage peut être fort gracieux. Paragraphe 17. En résumé, c'est la vaine jactance qui paraît l'opposé de la franchise, parce qu'elle est en effet un défaut plus grave que l'ironie ou fausse réserve. Chapitre 8. Sommaire. De l'esprit de plaisanterie. L'homme de bon ton sait garder un juste milieu entre le bouffon, qui cherche toujours à faire rire, et l'homme à humeur farouche, qui ne se déride jamais. Limite de la bonne plaisanterie, exemple de la vieille comédie et de la comédie nouvelle. Règle que sait toujours se faire l'homme bien élevé. Résumé. Paragraphe 1. Comme il y a des moments de repos dans la vie et qu'il nous faut dans le repos même des distractions qui nous amusent, il semble qu'il peut y avoir dans ces moments une manière de société délicate et de bon goût qui consiste à dire ce qu'il faut et comme il faut et à écouter les autres aux mêmes conditions. On pourra même attacher grande importance à ne parler jamais qu'à des gens de cette espèce et à ne point en entendre d'autres. Paragraphe 2. Évidemment, il peut y avoir en ceci comme en toute autre chose, soit un excès en plus, soit un défaut en moins, s'écartant tous les deux du juste milieu. Paragraphe 3. Il y a donc des gens qui, poussant à l'excès la manie de faire rire, doivent passer pour des bouffons insipides et accablants, cherchant à tout propos des plaisanteries et visant bien plus à exciter les rires qu'à dire des choses convenables et décentes et à ne point blesser celui dont ils se raillent. Au contraire, il y a d'autres gens qui ne trouvent jamais eux-mêmes rien de plaisant à dire et qui en veulent à ceux qui ont plus d'esprit qu'eux. Ce sont des personnages rustiques et grossiers. Mais ceux qui savent plaisanter avec goût sont des hommes d'un commerce aimable, et l'on pourrait presque dire d'un commerce souple et flexible. Car ce sont là en quelque façon des mouvements de caractère, et de même qu'on juge les corps par les mouvements qu'ils font, de même aussi l'on peut juger les caractères à des signes analogues. Paragraphe 4. Cependant, comme il n'y a rien de plus commun que la plaisanterie, et qu'on se plaît d'ordinaire à s'amuser, et même à pousser la raillerie au-delà des justes bornes, il arrive assez souvent que les mauvais plaisants passent pour aimables et pour des gens de bon goût. Ils en sont loin pourtant, et ils en sont même fort loin, comme on peut en juger par ce que nous venons de dire. Paragraphe 5. L'adresse ou le tact est encore un avantage de la qualité moyenne que nous louons en ce genre. L'homme de tact sait ne dire et n'entendre que ce qu'il convient à un homme comme il faut, à un homme libre, d'entendre et de dire. Il y a certaines choses, en effet, qu'un honnête homme peut dire et qu'il peut entendre en plaisantant. Mais la plaisanterie de l'homme libre ne ressemble point à celle de l'esclave, pas plus que celle de l'homme bien élevé ne ressemble à celle de l'homme sans éducation. Paragraphe 6. C'est une différence analogue à celle qu'on peut observer entre les comédies anciennes et les nouvelles. On ne trouvait d'un côté des plaisanteries que dans des termes obscènes, et de l'autre, on se borne le plus souvent à des allusions, ce qui n'est pas de peu d'importance sous le rapport de la décence. Paragraphe 7. Est-il donc possible de tracer les bornes de la bonne plaisanterie en disant qu'elle ne doit se permettre que ce qui sied à un homme libre, qu'elle ne doit jamais choquer celui qui l'entend, et que loin de là, elle doit au contraire lui faire plaisir? Ou bien, les choses de cette espèce n'échappent-elles pas à toute définition, justement parce que les antipathies et les goûts varient infiniment d'une personne à l'autre? Chacun souffrira et entendra ce qu'il convient à son caractère d'entendre, parce qu'on semble en quelque sorte faire soi-même ce qu'on laisse dire devant soi. Paragraphe 8. Il n'est pas à croire, cependant, qu'on ferait absolument tout ce qu'on écoute, car la plaisanterie peut être une sorte d'insulte, et certaines insultes sont défendues par les législateurs qui auraient bien fait aussi de défendre des plaisanteries d'un certain genre. L'homme honnête et de bon goût, l'homme vraiment libre, sera dans ses relations comme une loi perpétuelle pour lui-même. Paragraphe 9. Tel est donc l'homme qui tient, dans le genre dont nous parlons, ce délicat milieu. On l'appelle d'ailleurs homme de tact, homme de bon ton, ou comme on voudra. Paragraphe 10. Quant au mauvais plaisant, il ne sait pas résister au plaisir de railler. Il ne s'épargne pas plus lui-même qu'il n'épargne les autres. Et pour provoquer les rires, il se permet des choses que ne dirait jamais un honnête homme, et quelques-unes qu'il n'entendrait même pas. Paragraphe 11. L'homme grossier et d'humeur farouche est tout à fait étranger à ses relations de société et n'en fait aucun usage. Il n'y apporte rien pour sa part et il s'y choque de tout. Paragraphe 12. Toutefois, il semble que c'est une chose tout à fait nécessaire dans la vie que d'y ménager des moments de relâche et d'amusement. On peut donc distinguer dans les relations de société les trois milieux dont nous avons successivement parlé. Tous les trois se rapportent à l'échange de certains discours et de certains actes des hommes entre eux. La différence qui les sépare, c'est que l'un s'applique plus spécialement à la vérité et que les deux autres s'appliquent au plaisir. Et des deux qui sont relatifs au plaisir, l'un ne se rapporte qu'à l'amusement proprement dit, tandis que l'autre est relatif aux autres rapports de la vie sociale. Chapitre 9. Sommaire. De la pudeur et de la honte. C'est plutôt une affection corporelle qu'une vertu. Elle ne sied bien qu'à la jeunesse. Et pourquoi ? Plus tard, la honte qui consiste à rougir de ce qu'on a fait ne peut jamais atteindre l'honnête homme qui ne fait jamais rien de mal. La honte indique d'ailleurs un sentiment d'honnêteté. Paragraphe 1. On ne peut guère parler de la pudeur ou la honte comme d'une vertu. Elle est, à ce qu'il semble, plutôt une affection passagère qu'une véritable qualité. Et l'on peut la définir une sorte de crainte du déshonneur. Paragraphe 2. Ses conséquences même se rapprochent beaucoup de celles qu'est la crainte qu'on éprouve dans le danger. Ceux qui ressentent de la honte rougissent tout à coup, comme ceux qui ont peur de la mort pâlissent instantanément. Or, ce sont là deux phénomènes purement corporels. Et ce sont les caractères d'une émotion fugitive bien plutôt que d'une habitude ou qualité. Paragraphe 3. Cette affection même de la honte ou pudeur ne va pas bien à tous les âges. Elle ne sied guère qu'à la jeunesse. Si, dans notre opinion, il est bon que les jeunes cœurs soient très susceptibles de cette affection, c'est que, vivant à peu près exclusivement de la passion, ils sont exposés à commettre beaucoup de fautes et que la pudeur peut leur en épargner un bon nombre. Nous louons, parmi les jeunes gens, ceux qui sont timides et honteux. Mais on ne peut louer la timidité dans un vieillard, car nous ne croyons pas qu'un vieillard puisse jamais rien faire dont il ait à rougir. Paragraphe 4. La honte n'est jamais le fait d'un cœur tout à fait honnête, puisqu'elle ne se produit qu'à la suite des mauvaises actions, et qu'un homme honnête ne doit pas se laisser à en commettre. Peu importe d'ailleurs que les choses soient véritablement honteuses, ou qu'elles ne le soient que dans l'opinion. Il ne faut faire ni les unes ni les autres, et l'on est sûr de n'avoir jamais à rougir. Il n'y a qu'un cœur vicieux qui soit capable de faire quelque chose de honteux. Mais être ainsi fait qu'on puisse commettre un acte de ce genre et croire que par cela seul qu'on en rougit on redevient honnête, c'est une énorme absurdité. La honte ne peut s'appliquer qu'aux actes volontaires, et jamais l'homme honnête ne fera volontairement une action honteuse. Paragraphe 6. Je conviens d'ailleurs qu'à un certain point de vue, la honte peut n'être pas sans quelque honnêteté. Si l'on commettait telle ou telle faute, il serait bon d'en rougir. Mais ceci n'a rien de commun avec les vertus véritables. Certes, l'impudence, qui ne ressent plus la honte, est un vice, et celui qui ne rougit point du mal qu'il fait est un misérable. Mais il n'en est pas plus honnête pour cela de rougir après avoir fait des choses aussi coupables. Paragraphe 7. On peut même aller jusqu'à dire que la tempérance, qui sait se dominer, n'est pas non plus une vertu très pure, et que c'est plutôt une vertu mélangée. Mais on l'étudiera plus tard. Pour le moment, parlons de la justice. Fin du livre 4e.